On connaît très mal, en fait, au Québec, les parcours des réfugiés, les parcours des immigrants indépendants. Donc, on fait beaucoup de confusion et on a tendance souvent à considérer que les réfugiés sont des pauvres personnes, des victimes. On regarde un peu ce qui se passe à la télé, la violence, etc. Et je pense qu'on a tendance à sous-estimer aussi les forces de ces personnes-là qui ont traversé effectivement des situations très, très difficiles, mais qui ont acquis dans ces situations-là justement des compétences d'adaptation ou des compétences de développement qui sont tout à fait inusitées chez nous quand on ne vit pas finalement ces situations-là.
On pourrait aussi, par extension, dire qu'on comprend mal ces gens et on sent peut-être ici qu'il y a un manque d'intérêt de la part des Canadiens qui semble relativement nouveau, qui n'existait pas il y a 20 ans où les gens étaient plus intéressés.
Mais je pense que peut-être confronté, je dirais, à une espèce de mondialisation de la mobilité, les Canadiens ont comme moins d'intérêt. Vous avez raison. Par exemple, dans notre région, au moment des Boat People dans les années 70, quand les Vietnamiens sont arrivés, c'était les premiers réfugiés hein, qu'on accueillait en Estrie. Et à ce moment-là, il y avait eu beaucoup d'intérêt, de curiosité, je dirais, de solidarité ou en tout cas quelque chose d'humain qui passait entre les gens. Je pense que maintenant, avec toutes les images qu'on voit dans les médias, etc., on a l'impression à la fois qu'ils sont très proches et très loin, et finalement, on devient plus indifférent aussi.
Est-ce que ce n'est pas dangereux au plan politique lorsqu'on est dans un contexte où les gouvernements doivent réviser de temps à autre les
Oui.
lois sur les réfugiés?
Ben oui, bien sûr, c'est très, très dangereux. Je pense que, en tout cas, au Canada, on est en train de vivre une situation très difficile à ce moment-là. On était un pays très accueillant, réfugiés. On était vu comme le pays des droits de l'homme et à juste raison pour beaucoup de cas. Et on peut dire qu'il y a vraiment actuellement une fermeture, on pourrait dire, par rapport aux réfugiés, par rapport aux demandeurs d'asile hein, qui sont de beaucoup moins nombreux ces années-ci parce que la loi ne leur permet pas de faire ces demandes pour obtenir le statut de réfugié au Canada. Ça, c'est très, très inquiétant parce que c'est à la fois que nos procédures ou nos frontières, finalement, se ferment à ceux qui potentiellement pourraient être des réfugiés, mais ça veut dire aussi que nos mentalités, à tous les Canadiens finalement, on a tendance effectivement à se refermer sur nous-mêmes et à se dire ben, les droits c'est pour nous et pas pour les autres.
Est-ce qu'il y a d'autres pays de la taille du Canada qui avaient la réputation d'être des nations ouvertes également qui se referment un peu?
L'Australie. On voit vraiment l'Australie qui, à peu près dans les mêmes orientations que le Canada, referme ses frontières à certains types de réfugiés. En fait, c'est ça ce qui se passe, hein, c'est qu'on se referme à certains types de réfugiés et on est prêt à en accepter d'autres. Et ça, c'est très inquiétant parce que justement, le principe même des réfugiés, c'est qu'ils sont en danger, leur vie est en danger dans leur pays, on doit pouvoir les accepter chez nous, quelles que soient leurs orientations politiques, sociales, leur classe sociale, leur niveau social. Socio-économique dans le pays d'origine ou leur niveau d'instruction. Ce qui est très inquiétant, c'est vraiment la sélection des réfugiés. Ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que dans nos pays, je pense l'Australie, le Canada, la Suède, les pays qui traditionnellement accueillaient des réfugiés, on a cette fermeture-là. Alors, je ne parle pas des pays européens comme la France, l'Italie, l'Espagne, qui effectivement encore plus sont en train de fermer leurs frontières et de manière drastique en recueillant sur les côtes des réfugiés morts ou à moitié morts qui arrivent par bateau. Mais en fait, ce que veulent ces pays, et le Canada fait la même chose, c'est on préfère qu'ils restent ailleurs, à l'extérieur. S'ils arrivent chez nous, quelque part, on va être obligé de traiter leur situation. Et donc, on préfère vraiment éviter qu'ils rentrent. Ça, c'est dramatique dans la situation actuelle.
Une voie pour les réfugiés pour arriver au Canada, c'est celle du parrainage. On connaît
Oui,
de
du
nombreux.
parrainage privé.
Exactement. On voit de nombreux cas, là, d'Africains, par exemple, qui sont dans des situations difficiles, délicates, et c'est une particularité intéressante. C'est que ça permet à des initiatives personnelles d'agir, de performer là où le gouvernement serait plus lent ou plus lourd. Et il y a eu des changements qui ont été annoncés à la pièce, pas véritablement de politique claire, oui. mais des changements ici et là depuis quelques années, et qui, les organismes disent, ben, écoutez, ça, ça complique notre vie.
Oui. Ben, ce qui se passe, c'est qu'effectivement, d'un côté, le gouvernement du Canada dit, oui, on veut plus de parrainage privé, en particulier, je pense, aux Syriens, actuellement, où on nous dit, bon, il faut plus de parrainage privé. Mais c'est le gouvernement, à la fois, ne facilite pas pour autant les parrainages privés et rend au contraire les choses plus difficiles, par exemple en augmentant les sommes d'argent qui sont nécessaires pour faire venir les gens, par exemple en étant plus, comment dire, en mettant de plus longues procédures pour que leurs dossiers soient admis, en mettant au niveau de la santé, par exemple, aussi des examens médicaux qui vont être plus longs et qui doivent être faits par des médecins agréés qui, dans les pays d'origine, ne sont pas forcément proches ou disponibles, et en faisant beaucoup augmenter aussi les coûts, hein, c'est très clair, du parrainage privé. Donc d'un côté, on nous dit il faut augmenter les parrainages privés. De l'autre côté, on met en place des procédures qui tendent à le, je dirais, à le raréfier puis à le rendre plus difficile et plus long. On nous parle de à peu près 2 ans dans le meilleur des cas. Et de l'autre côté, en fait, en mettant le parrainage privé de l'avant, on se dit ben, finalement, on peut peut-être prendre moins de réfugiés publics, on peut peut-être avoir moins de réfugiés pris en charge directement par l'État. C'est très inquiétant parce qu'en fait, la privatisation du parrainage, ça fait que d'une part, on aura sans doute moins de réfugiés au Canada, puis ça veut dire qu'il n'y a plus de responsabilité collective du pays par rapport à ces réfugiés-là. Ça peut être très inquiétant aussi quand, par exemple, ce sont des femmes qui arrivent et qui peuvent être, ou des personnes âgées, des aînés, qui peuvent être victimes finalement de mauvais traitements de tous ordres et qui sont complètement dépendants au travers du parrainage privé.
Merci beaucoup de nous avoir apporté vos informations, votre expérience dans ce dossier-là, professeur Larroussi.
Merci à vous.
Merci.
Au revoir.
Au revoir.